TWR Côte d'Ivoire vous présente le mot du jour. La parole du Dieu vivant pour vous instruire et vous affermir dans la foi avec Paul Schroeder. Chargé de production, Georges Assé.
Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions découvrir les merveilleux trésors contenus dans la parole du Seigneur Jésus. Le mot sur lequel nous allons nous focaliser pour notre numéro de ce jour est le mot « grâce ». Nous allons comprendre ce qu'est la grâce de Dieu, comment elle opère pour transformer nos vies à la gloire de Jésus-Christ. Les Écritures nous parlent d'une condition universelle propre à tous les êtres humains. Elle te concerne donc aussi, celle du péché. Nous sommes nés pécheurs. Nous avons par conséquent tous besoin de la grâce et du pardon de Dieu. Si je te pose la question, ami, comment définirais-tu la grâce? La réponse immédiate que je peux donner est que fondamentalement, elle signifie le pardon. Dans une des explications que j'avais entendues dans le temps, la grâce était définie comme l'ensemble des richesses que nous avons reçues de Dieu aux dépens de Christ, offertes en sacrifice expiatoire pour nos péchés. Bien que cette définition soit juste, elle mérite d'être éclaircie. Les difficultés à cerner la notion de grâce relève de deux principaux doutes ou malentendus qui apparaissent lorsqu'il faut distinguer la grâce de Dieu ou son pardon. Ils sont dus à des problèmes d'attitude adoptés vis-à-vis de ces deux notions. Ce sont des appréhensions ou des décisions que certaines personnes prennent selon leur compréhension du pardon de Dieu. La première de ces raisonnements extrémistes est le fait de se dire « On peut le résumer ainsi, la grâce de Dieu ne me couvre pas. » Cette affirmation provient d'un sentiment récurrent chez tous les pécheurs, se jugeant trop misérables pour être sauvés. Lorsqu'il est par exemple question de se rendre au culte dans une discussion, certains interlocuteurs vont tourner le sujet en dérision. Et surtout que la plupart savent que « Je suis pasteur » et ont probablement reçu mes encouragements à renouveler leur vie de foi ou à se repentir, à donner leur vie à Jésus et devenir membre de l'Église. Une de leurs plaisanteries est donc de dire « Si je venais à l'Église, le toit tomberait sur ma tête. » Je leur réponds aussitôt dans ces cas-là que « C'est impossible que cela arrive. » La charpente du toit de l'église est en béton, c'est très lourd et solide, le plafond ne peut absolument pas céder facilement. En réalité, un fort sentiment de culpabilité se cache derrière ce type de plaisanterie. Ces personnes se sentent généralement indignes d'entrer dans la présence de Dieu. Or, les Écritures nous disent clairement dans l'Épître aux Romains au chapitre 4, verset 23, que nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. De là peut naître le sentiment d'être insauvable. Certaines personnes sont complètement rongées par la culpabilité, à dessein, puisqu'elles ont certainement commis des actes immondes. Peut-être s'agit-il d'actes pervers et criminels tels que les actes sexuels indécents, le viol, le meurtre et les sévices sexuels. Malheureusement, ce sont les êtres humains qui posent de tels actes. Si tu es concerné, tu dois te sentir, selon cette expression familière, pouilleux, c'est-à-dire excessivement sale, rejeté par Dieu. J'appelle ce sentiment l'impact de Judas. Judas avait posé un acte qu'il considérait impardonnable. Il débordait de remords parce qu'il avait trahi son maître. Il avait livré Jésus à ceux qui cherchaient à le tuer sans raison. En fait, juste avant qu'il aille se suicider, il dit « J'ai trahi le sang innocent ». Je veux te dire aujourd'hui qu'il y a un sentiment de culpabilité extrême qui est celui d'être convaincu d'avoir trahi Jésus au point où il ne pourra pas te pardonner. La vérité à retenir ici est que Jésus, dans sa divine indulgence, sa capacité divine à nous pardonner a toujours été la volonté de le faire. C'est ce qui est extraordinaire dans ce qu'on désigne comme son incroyable grâce. C'est ce qui est si merveilleux à propos de l'Évangile. La bonne nouvelle annoncée par Dieu, c'est que Dieu peut faire ce que nous, êtres humains, ne parvenons pas à faire. Il y a donc des personnes qui doivent faire une rétrospective pour mieux réaliser quelle est la portée du pardon de celui contre qui ils ont péché. Dans une autre perspective, l'autre extrême est une sorte d'attitude arrogante. C'est la deuxième erreur que je vais maintenant développer. Un raisonnement à contrario du premier, mais qui reste erroné au regard de la notion de grâce de Dieu. C'est le fait de se dire « Je suis entièrement recouvert de la grâce de Dieu ». La logique dans cette attitude ou ce genre de pensée est de nourrir la conviction qu'un enfant de Dieu peut tout se permettre sans être inquiété des conséquences. Le plus souvent, il s'agit d'un sentiment d'arrogance ou encore d'une mentalité laxiste qui consiste à considérer qu'en tant qu'enfant de Dieu, les péchés commis en parcours et les désobéissances à la parole sont mineurs et anodins. Ce type de personne dira par exemple, après tout, « Dieu m'aime, il m'a sauvé. Des petites fautes, ci et là, ne me feront pas de mal et ne mettent aucunement mon salut en danger. » Laisse-moi te dire que c'est jouer à un jeu dangereux. Pour t'éclairer sur ce danger, ouvrons nos Bibles. Je vais lire un verset dans le livre de la première épître de Paul aux Corinthiens chapitre 5, dans lequel l'apôtre Paul, en visite dans la ville de Corinthe, adresse un avertissement aux chrétiens. Il dit ceci, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou de ceux qui sont toujours désireux de posséder plus, des voleurs, des idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relations avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle et est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. L'apôtre Paul avertit le peuple qu'il ne peut pas réduire la grâce de Dieu à un acquis, comme si c'était un gain systématique, comme si finalement c'est Dieu qui leur est redevable, comme s'ils avaient signé un contrat avec lui et ils devaient maintenant remplir son engagement de les sauver, puisque l'avait déjà respecté en devenant chrétien. Le salut n'est pas ta créance sur Dieu. Il n'est pas obligé de te sauver et te pardonner si tu persistes dans le péché. Cher ami auditeur, tu dois réaliser qu'une fois sauvé, l'étape suivante pour toi consiste à valoriser cette grâce qui t'a été accordée en ne la considérant pas comme un simple recours au cas où, comme c'est le cas pour les extincteurs de feu placés dans une vitre avec l'inscription « brisé en cas d'urgence » pour indiquer qu'on peut y avoir recours à n'importe quel moment si nécessaire et en même temps l'ignorer si ça ne l'est pas. Je t'exhorte à t'abstenir d'une telle attitude. Persister dans le péché est une façon de tenter Dieu à te punir ou à te condamner. Nous devons réaliser que la grâce de Dieu est permanente pour que nous la valorisions et en fassions un bon usage, par exemple, pour nous aider à nous réconforter lorsque nous sommes coupables, lorsque nous nous sentons répugnants. Elle nous rappelle que Jésus est venu pour les pécheurs. C'est tellement extraordinaire d'avoir une illustration parfaite de la capacité de rédemption et salut par Jésus à travers l'apôtre Paul lui-même. Paul, qui s'appelait auparavant Saul, était un persécuteur zélé des chrétiens. Il haïssait et méprisait les chrétiens. Il suivait jusqu'à leur mise à mort tous ceux qui se prévalaient du nom de Christ. Tu peux lire dans le livre des Actes, au chapitre 9, comment Christ l'a affronté. Il a complètement transformé la vie de Paul, le grand apôtre, au point où, plus tard, lorsque son nom va changer et qu'il entama son ministère, il réfléchit en se demandant quelle est cette grâce par laquelle Christ sauve des personnes qui le haïssent. Il se disait que Christ aurait plutôt accordé les mérites de ses souffrances et de sa crucifixion à ses fidèles. Je ne pense pas que Paul se soit remis de son étonnement. Je crois qu'il est demeuré tout au long de son ministère contemplatif, de l'amour divin et de la compassion de Dieu telle qu'exprimée à travers Jésus-Christ. Il y aura toutefois, toujours, des conséquences à nos péchés. Le pardon obtenu en Jésus-Christ te donne l'assurance de la gloire éternelle si tu mets ta foi et ton espérance en lui. Ce n'est pas un pari ni un jeu, c'est un réel appel à te consacrer à Christ, à l'adorer et vivre pour sa gloire. C'est en cela que ta foi est effective. Même en tant que chrétien, nous ne sommes pas pour autant exemptés des conséquences de nos péchés. Si tu conduis ta moto ou ta voiture comme un fou, à toute vitesse, et que tu vas dans le décor et es blessé, le pardon de Dieu ne va pas effacer les conséquences physiques de ta folie, mais Dieu peut te pardonner ta faute et te guider vers une vie restaurée. Voilà, cher ami, c'est la fin de notre numéro de ce jour. J'espère que ce message t'a fait du bien. Je prie pour que tu aies des occasions de le partager et témoigner tous les jours de l'incroyable grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. À Dieu seul, la gloire. Amen.
Cette émission vous a été offerte par TWR Côte d'Ivoire. Nos contacts sont les suivants. Le mot du jour, TWR Côte d'Ivoire, 06 BP 21 31 Abidjan 06. Téléphone 22 49 03 01 ou 05 51 49 06. Email twr21 31@yahoo.fr.